Chapitre 97. La lumière du soleil matinal s'immisce entre les rideaux rose pâle et éclaire la table de chevet roulante où est posé un livre sur l'énigme de Fermat. Saga est allongée dans sa chambre à l'hôpital Karolinska de Huddinge, son épaule protégée par un bandage stérile. La balle tirée par Juna a brisé la tête de l'humérus. Le chirurgien a stabilisé la fracture, arrêté l'hémorragie et laissé la plaie ouverte pour une cicatrisation secondaire. On frappe à la porte et Juna entre. Il s'approche en la regardant comme une petite sœur malade, tend la main et lui caresse la joue.
« Comment tu te sens ?»«
Tu comprends bien que ça fait mal quand tu me tires dessus ?» rétorque-t-elle.
« Je suis désolé, mais j'avais pas le temps de faire autrement. »«
Qu'est-ce qui s'est passé en fait ?» Juna pose la 9e figurine en étain sur la table à côté d'elle. Le soleil brille sur le métal gris pâle. La figurine représente une jeune femme aux cheveux emmêlés. Elle se tient debout, les pieds écartés, les bras pendant le long du corps, et a un pistolet dans sa main droite. Mara Makarov était la 9e victime. Je pensais que ce serait toi.
S'étonne Saga. Oui, mais depuis le début, il ne s'agit que de toi et d'elle, de personne d'autre.
Alors, les cartes postales et la menace contre toi, je ne comprends pas.
Je n'étais qu'un fil dans la toile d'araignée.
Et moi, j'ai été prise dedans,
soupire-t-elle. Puisque Mara a réussi à retrouver sa famille morte avec l'aide du matériel auquel tu avais eu accès, tu aurais dû pouvoir toi aussi les trouver lorsqu'ils étaient encore en vie.
C'est vrai, je sais. C'est ma faute s'ils sont...
Non, c'est pas ça. C'est pas ta faute. C'est la faute de Jurek. Mais Mara t'a fait porter la culpabilité. Elle voulait que tu sois condamné pour 9 meurtres.
Je la comprends, dit Saga à voix basse. Juna tire une chaise et s'assied à côté du lit. Saga saisit la petite figurine en étain et la regarde sous toutes les coutures.
Sous l'autoroute, poursuit Juna, lorsque Mara s'est tournée vers toi, elle n'avait pas l'intention de tirer. Elle voulait juste te piéger pour que toi tu lui tires dessus.
En fait, tout ça n'était qu'un suicide élargi.
Oui.
Et tu m'as tiré dessus pour que je ne la tue pas,
dit Saga en reposant la figurine sur la table. Sinon, tu aurais probablement été condamné pour les meurtres. En tout cas, au moins pour le dernier. Sous le tas de couvertures, il y avait une lettre décrivant comment tu l'avais menacée de mort pour qu'elle n'aille pas raconter son histoire aux médias.
Elle avait tout prévu.
Mara t'a reproché de ne pas avoir sauvé sa famille. Mais c'est en fait à elle-même qu'elle en voulait le plus, poursuit Juna. C'est elle qui a réussi à s'échapper du bunker, et tous les membres de sa famille ont probablement pensé que ce serait leur salut, qu'elle obtiendrait de l'aide. Mais elle était tellement affaiblie par le temps passé dans l'obscurité qu'elle s'est contentée de marcher sans se soucier de l'endroit qu'elle laissait derrière elle.
À part Moraberg. C'est ce qu'elle a répété au psychologue, sans réussir à se faire comprendre,
dit Saga d'une voix à peine audible. Si elle n'avait pas fait une dépression et n'avait pas été internée en psychiatrie, sa famille aurait survécu.
Un lourd fardeau de culpabilité.
C'est la raison pour laquelle elle a estimé qu'elle méritait de mourir au même endroit que les autres.
Comment tu as trouvé les pièces souterraines ?
Demande Saga. Les 9 lieux de crime forment un M ou un W géant d'un diamètre d'une centaine de kilomètres. Quand j'ai vu la 9e figurine, j'ai compris que le lieu du meurtre et celui de la découverte du corps convergeraient cette fois.
Puisque Mara ne pourrait pas bouger son propre corps,
acquiesce Saga. Exactement. Et en suivant son schéma de pensée, j'ai su quel serait ce lieu.
Tu apprends vite,
sourit Saga.
Juna explique ensuite que Mara est placée en isolement au centre de détention de Kronoberg. On lui a rapporté qu'elle n'avait pas prononcé un seul mot lors du premier interrogatoire du procureur, mais personne ne doute qu'elle sera condamnée pour les meurtres. Ils discutent longtemps de toutes les victimes. Et le visage de Saga devient vide et pâle lorsqu'ils abordent les meurtres de Margot et de Werner. Mais ce n'est que quand ils en viennent à Randy et à la manière dont il a lutté pour survivre que son menton commence à trembler et que des larmes coulent le long de ses joues. « Pourquoi tout le monde doit mourir ?» murmure-t-elle. « C'est parfois ce qu'on ressent, que le prix est trop élevé. »
« Oui.
Je sais que Jurek m'a empoisonné. Il a empoisonné mes pensées quand je me mets à croire que je suis devenu comme lui. »
Confie Juna.
« Ce n'est pas vrai.
C'est juste que... ça me semble de plus en plus lourd. Après chaque affaire, je dois en quelque sorte traverser de nouveau le champ de bataille ensanglanté. C'est comme ça que je le vois. »
« Je comprends, » dit-elle.
« Je dois m'arrêter devant chaque corps et revivre la peur et la souffrance et le chagrin qu'ils laissent derrière eux.
Je n'arrive pas non plus à lâcher les victimes. » murmure Saga.
Juna la regarde dans les yeux. « Pendant longtemps, j'ai eu l'impression que je ne faisais qu'empirer le monde.
Mais tu es le meilleur.
Et moi je pense que tu es la meilleure. »
répond-il.
On aurait travaillé beaucoup plus souvent ensemble.
Oui, on devrait.
Sourit-elle en essuyant ses larmes. Elle est allongée, le regard fixé sur le plafond, quand Juna se lève et s'en va. Elle entend échanger quelques mots avec les deux collègues qui montent la garde devant la porte avant de disparaître dans le couloir. Saga ferme les yeux et repense au moment où elle a descendu la longue échelle vers le monde souterrain, à cette obscurité qui s'est refermée sur elle. Elle s'endort, mais est réveillée par des voix derrière la porte de sa chambre.
« Lâchez-moi, je dois... »
« Reculer d'un pas !» interrompt un des policiers. « On veut voir une pièce d'identité valide. »«
J'ai le droit de voir ma petite amie, je... »
« Calmez-vous !» intervient l'autre agent.
« Si vous ne vous calmez pas et ne faites pas un pas en arrière... »
Vous allez me tirer dessus, c'est ça?
Personne ne va vous tirer dessus, mais nous vous mettrons en garde à vue si vous ne faites pas ce qu'on vous dit.
Au bout d'un moment, on frappe à la porte, et l'un des policiers entre, l'air embarrassé.
Un certain Karl Speller veut te voir.
Tu peux le laisser entrer,
sourit Saga.
Mais je ne suis certainement pas sa petite amie.
Karl entre et lui fait un grand sourire. Il laisse apparaître ses canines pointues. Il ressemble à Apollinaire avec son grand pansement autour de la tête. Il porte un t-shirt noir avec l'inscription « Tangerine Dream » et un gros bouquet de roses rouges dans les bras.
« Quelqu'un t'a déjà dit que tu ressemblais à une princesse ?»
dit-il en se postant devant elle.
« Non. »
« La balle a détruit un morceau de mon os temporal. »
explique-t-il en esquissant un geste nonchalant vers sa tête.
« Ça n'a pas dû améliorer ta coiffure ?»
répond-elle en réprimant un sourire.
« Mais ça valait le coup !»